Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Les meufs, ça y est, mon livre est sorti. Pouf! Je suis aussi stressée que excitée. Ce livre, vraiment, je l'ai écrit d'une traite. C'était une évidence. J'y ai mis tout ce que j'aurais voulu lire quand j'étais enceinte. Les clés pour comprendre pourquoi on accouche de cette manière aujourd'hui. Pourquoi on peut ressentir un malaise quand on est enceinte, face aux injonctions et ce qu'on perçoit au fond de nous. J'y ai mis les chiffres pour naviguer aussi face aux dangers brandis par le système médical, et ceux pour comprendre de quoi on parle et des réelles probabilités auxquelles on a affaire. J'y ai mis les liens vers les études aussi pour pouvoir comprendre par soi-même, et surtout des propositions pour modifier ses schémas de pensée. Réfléchir différemment, réfléchir ensemble aux questions de responsabilité, de santé physique, mais aussi mentale, émotionnelle, relationnelle, et plein d'autres choses. Et puis j'y ai mis plein de ressources aussi pour se préparer au mieux, mentalement. Il coûte 9,90€. Allez le commander chez votre libraire pour qu'il l'ait en stock, et dites-lui s'il vous a plu, pour l'inciter à le recommander à d'autres personnes ensuite. Vous aussi, vous avez un rôle à jouer dans le changement de point de vue sur les accouchements. C'est votre histoire, mais c'est aussi la nôtre, à nous toutes qui donnons naissance, ou pas d'ailleurs. Retrouver le pouvoir d'enfanter, c'est le titre de ce livre, et il n'attend que vous. Bonne lecture et bon épisode.
Donc je suis hyper contente. Donc toi, tu vis au Canada ?
Ouais, c'est ça.
Ok, depuis toujours ?
Non, depuis 4 ans, j'ai quitté la France en début de Covid avec mes deux enfants que j'ai eu en France et les deux premiers et deux derniers que j'ai eu au Canada. Là.
D'accord, oui, parce qu'il semblait qu'il n'y avait pas d'accent. Et donc, je me disais, bon, alors on n'est pas sur...
pas encore.
Pas encore, peut-être un jour. Et tu as quitté la France pour une raison particulière ?
Le Covid.
Ben déjà, l'instruction en famille qui était soumise à condition est devenue, entre guillemets, soumise à condition et limite illégale. Hein. Donc moi, j'ai dit non, c'est impossible pour moi que je ne puisse pas garder mes enfants auprès de moi. Et donc du coup, pour différentes raisons, moi j'étais à Bordeaux à la base, donc beaucoup de violences qui se sont déclarées ces dernières années, beaucoup de problématiques... en tout point, donc j'ai dit non, je veux pas faire vivre mes enfants dans cet univers-là, donc je préfère les protéger, pouvoir partir et surtout pouvoir les avoir en instruction en famille, voilà, pour avoir le droit de les éduquer moi-même, ouais, parce qu'encore au Canada, on a le choix de faire l'instruction en famille librement, quoi.
Et donc, pourquoi le Canada ? Juste parce que c'est un pays qui permet ça ou parce que vous avez quelque chose ?
Alors, parce que c'est aussi plus simple parce que c'était français. C'est français. Et beaucoup plus simple. Après, c'est vraiment la bienveillance des gens, tout ce qui est autour des enfants, en fait, de l'éducation des enfants. Et puis, au fur et à mesure, j'ai compris par rapport à la naissance, par rapport à plein de choses. Ils sont vraiment... vraiment plus bienveillant, vraiment une approche positive par rapport à la France, hein, bien que ce soit pas parfait. Mais voilà, je me suis retrouvée pour ma famille et moi ici. Et puis c'était un choix de facilité parce que le français et parce que les visas, c'est plus simple à la base. Nous, notre histoire est très compliquée, mais c'est vrai que c'est plus simple en étant français. Pour la petite histoire, en plus, le Canada, il y a pas mal de villes jumelées avec la France. Donc voilà, sinon, ça aurait été la Finlande, la Norvège, mais bon. Après, c'est apprendre à parler
Ah ouais, et
de
parce que...
langue un peu plus complexe.
Ah ouais, c'est ça quoi. Mais parce que niveau professionnel, pour vous, vous pouviez aller bosser de n'importe où?
C'est un peu compliqué. Moi, je suis danseuse professionnelle à la base. Donc, j'avais envie culturellement de pouvoir venir voir ce qui se passait de l'autre côté de l'Atlantique. Et puis, il y a eu le Covid. Donc, rien ne s'est passé comme il fallait. Donc, culturellement, ça a été un peu le bazar. Et mon conjoint, oui, si tu veux, à niveau tout ce qui est informatique, tout ça, en fait, le Canada t'offre beaucoup d'opportunités de travail. C'est-à-dire que t'as pas besoin de prouver que tu as un bagage de fou. Tu peux passer franchement, d'un métier A à un métier B et gravir les échelons en un rien de temps, ce qui n'est pas franchement possible en France. Et
Ouais.
vraiment, genre, on te laisse la possibilité, le choix, pardon, de pouvoir vraiment évoluer. Et c'est vraiment un luxe quoi qu'on ne connaît pas de la France, bien que tout ne soit pas parfait ici, vraiment par rapport à la France, il y a vraiment une belle évolution de ce côté-là.
Ok. T'es au Québec, t'es à Montréal ou enfin ou pas du tout?
Ouais, je suis entre Montréal et Québec.
Ok, d'accord. Ok. Bon, bah, hyper intéressant, ça donne envie de discuter de tout ça aussi, mais on a un temps compté. Donc,
C'est ça.
on va aborder le sujet pour lequel déjà on vous laisse rencontrer. Donc, Patricia, donc, tu as 4 enfants. Tu en as
Ouais.
eu donc 2 ici et 2 au Canada.
Ouais.
Tu as toujours voulu avoir une famille nombreuse?
Pas du tout. Waouh, c'est genre, c'est non, pas du tout. Même mon conjoint, il en voulait pas du tout et on en a quatre et peut-être que tu vois, on en aura d'autres.
Oui.
C'est non. Et ouais, j'ai appris, en fait, moi je suis danseuse professionnelle et je te dis, je partais tout le temps, j'étais tout le temps sur la route, j'avais pas un truc prédéfini. Je me dis, ben, un jour je serai maman, tu vois, mais j'étais pas du tout dans la maternité. Et en fait, si tu veux, un jour, je suis tombée enceinte et j'étais au Laos. Quand j'ai appris que j'étais enceinte. Et si tu veux, pour la petite histoire, c'était compliqué parce que je pensais que c'était le médicament pour le palu que je prenais, qui me faisait avoir des nausées, être pas bien. Genre, j'étais vraiment pas bien, donc j'ai arrêté le médicament. Puis, tu sais, à la base, moi, je suis pas du tout médicament, tout ça. Et puis, j'ai arrêté. Je me suis dit, c'était. Parce qu'en fait, on vivait vraiment dans des trucs un peu roots et tout. Donc, il fallait vraiment quand même être protégé, aller voir, parce qu'on dormait à même le sol, dans des trucs. Voilà. Donc, prendre quand même des précautions. Et si tu veux, j'avais un retard de règles, mais bon, moi, ça n'a jamais été, tu vois,
Ouais.
constant, puis fixe. Donc, et en fait, pas plus tard, dans tout le Laos, qui est vraiment un pays des plus pauvres d'Asie, j'ai essayé d'avoir un pharmacien qui comprenait, il comprenait pas l'anglais, donc je montrais mon ventre, je montrais les règles, j'essayais de comprendre, tu vois, leur mettre un pas un truc pour mettre un test de grossesse, donc c'est assez drôle. J'ai fait 10 pharmacies, personne comprenait, genre, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Tu sais, je faisais les mouvements. Sexualité, je faisais tout, mais il comprenait pas. Donc à un moment donné, il y a un vieux monsieur qui a compris et qui m'a sorti un test, tu sais, avec le pot et le papier pH là.
Ah ouais?
Pas. Dans des pays, ça existe encore, mais un peu old school, tu sais, pour nous en France, tu vois. J'ai fait, ok, je vous en prends deux pour être sûr. Et j'ai fait le test, mais sans arrière-pensée. C'était genre en mode, tu sais, j'écarte ça au cas où, mais c'est impossible. Et en fait, j'étais enceinte. Voilà. Donc après, j'étais enceinte au Laos et puis en fait, je suis rentrée parce que je supportais mal le voyage, la chaleur, la route avec les tremblements, tout ça. Et en fait, à l'aéroport, j'avais eu des pertes sanguines noires. Donc je me suis dit, putain, j'ai perdu le bébé, il y a un truc qui se passe pas bien. Voilà. Donc j'ai quand même fait tout le trajet, 24 heures, machin. Je suis rentrée en France. J'ai refait un test de grossesse, j'ai fait des tests sanguins, j'étais vraiment enceinte. Donc, c'était pas du tout prévu. Voilà, pour la petite histoire. Voilà, j'ai appris que j'étais enceinte au Laos et j'étais partie 2 mois et en fait, je suis rentrée plus vite que prévu.
Okay, d'accord. Et donc tu rentres, donc tu fais des tests et au final les pertes sanguines, est-ce que c'était simplement un écoulement comme ça ou ouais, on ne saura jamais.
Voilà, fin de cycle, je pense, ou je sais pas, tu sais, comme se nettoyer
Ouais,
ou.
d'accord. Ok.
Voilà.
Ok. Donc t'as quel âge là? Quand tu es enceinte de ton premier, je veux dire, quand tu tombes enceinte?
J'ai 24 ans.
D'accord. Et c'était pas prévu. Et t'avais quoi, toi, comme image de l'accouchement? Tu te disais quoi avant que ça t'arrive?
Ben, en fait, c'est chaud parce que je me disais rien, mais je savais que c'était médicalisé, entre
Ouais.
guillemets. C'est malheureux, mais voilà, moi j'ai connu que ça, ma mère, et puis voilà, comme tout le monde, entre guillemets. Et
Ouais,
je
c'est
trouvais
ça.
ça malheureux parce que, bon, on verra dans l'histoire, mais j'ai eu 4 histoires vraiment complètement différentes et de la surmédicalisation avec des problèmes obstétricales, gynécologiques, des violences, jusqu'à la libération, naissance. Toute seule, en puissance, quoi. J'ai vraiment passé quatre étapes importantes et au début, bah, j'avais peur. J'avais peur parce que moi, j'ai une grosse histoire de violence dans ma famille. J'ai des parents toxiques, vraiment violents. Parce que mes deux parents sont d'origine roumaine, si tu veux. Il y a une grosse histoire de ce pays-là, là, vraiment avec beaucoup de violence. Et mes parents, ils n'ont pas du tout été dans la bienveillance. Il y a eu beaucoup de violence physique dans ma famille. Et si tu veux, ma mère a accouché à l'hôpital. Et quand je parle un petit peu avec des gens dans des pays un peu pauvres, ou qu'on appelle nous dans les pays développés, sous-développés, j'aime pas ce mot, mais on a tendance à dire qu'on a de la chance, nous, d'avoir. Je parlais avec mon amie Doula, mais d'avoir des médecins, d'avoir toutes ces structures. Si tu veux, eux, ça les rassure. Donc je pense que mes parents étaient rassurés de pouvoir avoir un accès aux soins et donc, du coup, de pouvoir avoir une naissance encadrée, une naissance dans des soins, alors que c'est complètement aberrant, alors que dans tous ces pays-là, notamment la Roumanie, les femmes, et même, tu vois, dans des pays d'Afrique, faisaient ça et font ça seules à des moments. Mais quand tu parles avec ce genre de personnes, enfin avec ce genre de personnes, avec ces personnes-là, avec moi, ma famille qui vit en Roumanie, bah, ils comprennent pas en fait ce choix de pouvoir avoir une naissance libre, de pouvoir avoir une naissance chez soi. Et donc mes parents, je pense que c'était ça. Ils ont vécu en Roumanie, ils sont partis, et du coup, bah, ils se sont dit, bah, l'accès aux soins est important, donc
Ouais. Oui,
j'ai
bah,
vécu que ça.
en fait c'est ce truc de progrès. C'est cette image de la médicalisation. Je pense que c'est le progrès. Et pourquoi est-ce que tu voudrais ne pas avoir accès au progrès alors que c'est au Moyen-Âge qu'on accouchait toute seule chez soi, c'est n'importe quoi. Ouais, je comprends. Alors que,
Ben, c'est un
évidemment.
problème de société, hein. Je pense que c'est un problème de société parce qu'au final, enfin, tout ce qui a grandi, tout ce qu'on nous a mis dans la tête, en fait, parce que les femmes ont très bien pu jusqu'à maintenant enfanter seules, aussi se guérir, prévenir. Et tu vois, par exemple, pour la petite histoire, mais au Canada, les soins sont très compliqués. On paye de notre poche, quand bien même en France, on paye aussi parce qu'on paye, voilà, tu payes la sécu toi-même, on va dire. Mais je veux dire, au Canada, il y a beaucoup plus de prévention et même s'ils sont beaucoup médicamentés, je trouve, il y a quand même une prévention et donc bah, tu vas vers l'accès aux soins naturels, en fait. Et donc, tu essaies de prévenir plutôt que guérir, en fait. Donc, vraiment, ça dépend, mais je trouve que, voilà, comme tu disais tout à l'heure, bah, que les gens ils se disent que c'est vraiment moyenâgeux en fait. Et pourtant tout se passait bien avant et puis il y avait la confiance, mais on a créé des peurs, on a créé des besoins en fait, c'est ça.
Clairement. Ok, donc toi, tu es dans cet environnement-là de gens qui, enfin voilà, dans ta famille, on pense que la médicalisation, c'est bien. Et enfin voilà, moi, ma famille, elle est, enfin, elle vient de France depuis longtemps et enfin, tu vois, les croyances, ce sont les mêmes. Enfin, c'est pas le même terreau, c'est pas les mêmes réflexions, mais le fait est que pourquoi est-ce que tu voudrais accoucher sans péridurale, ma pauvre fille, t'es quand même, enfin voilà, bon. Donc, ok. Donc, première grossesse, comment elle se passe et comment se passe ton accouchement?
Alors, atroce, terrible. J'ai eu des violences gynécologiques obstétricales. Atroce. C'est-à-dire que en France, bien que je ne sois pas préparée et que on me laisse pas le choix, on me dit, attention, gros bébé, vous êtes petite, vous faites 1,50 m, forcément, vous aurez une césarienne. Donc, on te met ça dans le crâne dès le premier rendez-vous. Et des violences obstétricales, c'est-à-dire que l'obstétricien, il me fait tous mes examens médicaux sans gants. Il me prévient pas quand il rentre dans mon vagin. Atroce, en fait, je suis là comme moi, j'ai vécu des violences sexuelles quand j'étais plus jeune. Donc, si tu veux, moi, la maternité, tout ce qui a rapport avec la féminité, Tout ce qui a rapport avec, voilà, tout ce qui se passe en dessous de la ceinture, on va dire, tout ce qui est corps de la femme, c'est très compliqué pour moi. Et donc là, je tombe enceinte, je dois aller voir un homme, je dois aller voir tout ce personnel médical qui va analyser tout ça, qui va devoir. Donc c'est très compliqué. Et encore aujourd'hui, des fois, c'est très compliqué d'en parler parce que quand bien même il y a eu des choses qui m'ont guéri, tout ce qui s'est passé, ça se passe et tu peux pas en guérir. Ça te fait ta force, ça fait ta force, mais t'en guéris jamais en fait. Et vraiment, j'en suis encore bouleversée parce que voilà, ce chirurgien qui te dit vous êtes trop petite, vous avez le bassin trop étroit, vous avez un énorme bébé qui est estimé à peu près 5 kilos. Et tous mes bébés ont avoisiné les 5 kilos, hein, tous.
Ah, pour de vrai?
Oui.
Ah, waouh!
Pour de vrai. Donc en fait, je me dis, ok, donc on te met dans la tête dès le premier rendez-vous que ça va pas être possible, que tu seras
Oui.
incapable, que c'est dangereux.
Bien sûr.
Et moi, puis, quand bien même, je disais à mon amie Doula, t'es une femme, que tu sois sensible ou pas, quand on te parle de danger et que t'es une mère et que t'as un enfant, même si t'es pas sensible, même si t'es pas machin, t'as l'idée du danger qui pop dans ta tête
Bien
et
sûr.
du ok, je suis une mère, j'ai mon enfant, je veux pas faire n'importe quoi. Donc voilà, vraiment horrible avec cet obstétricien. Je t'ai suivi, pas le choix. Et puis bien sûr, si tu essayes de faire, maintenant que t'es rentrée dans les clous, si tu essayes d'aller autre part. Bah, tu sais, en France, surtout avec les histoires qu'on a entendues sur les naissances dites seules, dites hors du hors de la société, c'est un peu compliqué, et voilà. Et moi, j'étais très, très flippée de ça. Donc, bah, j'ai suivi, j'ai écouté, et ça s'est avéré être atroce. Tous les suivis ont été horribles. Et si tu veux, le corps, mon corps, le jour avant la césarienne programmée, parce que césarienne programmée 2 semaines avant, la fameuse date dite d'accouchement, j'ai perdu les os
Ton
et je
corps a
tremblais.
essayé.
Oui, je tremblais et j'ai dû mettre une pression à mon corps et à ma fille en fait. Et je tremblais et je leur ai dit, j'étais la veille à l'hôpital et je leur ai dit, je peux essayer, là je perds les os, c'est que c'est possible. Et ils m'ont dit non, donc je suis partie tremblante au bloc en fait. Et au bloc, l'anesthésie s'est mal passée, c'est-à-dire que j'ai vomi, je me suis étouffée, ils ont essayé de pas m'endormir à anesthésie générale. Et tu vois, je t'en parle et ça me... j'ai envie de pleurer parce que c'est horrible. Parce que ce qui s'est passé, c'est vraiment horrible que j'avais ventre ouvert. Et ventre ouvert, il m'a quand même dit bébé ne sort pas, je n'arrive pas à l'attraper. Donc il a fait une incision beaucoup plus profonde et haute. Et là, attention, hein, il est monté sur moi. Donc j'ai une expression abdominale ventre ouvert. Donc j'ai une expression abdominale ventre ouvert atroce. Je me suis posée, il est passé derrière le champ et puis il a appuyé de toutes ses forces. Mais ça, j'en ai eu conscience beaucoup plus après en fait. Tout ça, c'était là, je te parle en ayant eu conscience après parce que ma fille est sortie. Mais pour la petite histoire, elle allait pas bien parce qu'on a dû partir la soigner en Allemagne avant ses 5 mois parce qu'elle avait le torticolis, l'omoplate qui était déboîté. Enfin, il l'a complètement avec cette expression abdominale. Puis moi, je sais que j'aurais pu y rester. Et il l'a complètement détruite physiquement. Moi, j'ai eu des douleurs postpartum pendant 9 mois où j'allais faire des échos tout le temps parce que j'avais des douleurs aux organes, j'avais mal aux côtes, j'avais des côtes fêlées. Enfin, c'était n'importe quoi. J'ai vraiment vécu cet accouchement. Ça a été traumatique. J'ai eu des saignements abondants. Pendant plus d'un mois, et puis c'était non, mais c'est normal, ça fait mal, c'est normal. Et puis tu sais, il n'y a pas ce côté-là. Moi, j'avais pas de doula, j'avais rien. Il n'y avait pas ce côté-là, protection avec la mère, qu'il faut qu'il soit quand même allongé un minimum. Tu sais, césarienne, moi, le jour d'après, il me disait rentrez chez vous. Mais je pleurais, j'ai dit, moi, je pouvais pas porter ma fille, je pouvais pas rien. Je pleurais tout le temps, mon conjoint devait m'essuyer. Enfin, je suis rentrée dans la maternité vraiment, tu vois, avec ce qui s'est passé durant mon enfance, la violence physique, les problèmes sexuels que j'ai eu, là, cet homme-là, dans la maternité qui vient, cet obstétricien qui me violente de toutes parts pendant les suivis, puis pendant l'accouchement, j'étais comme, waouh, c'est pas possible que ça se passe comme ça, c'est pas normal. Tu vois, et puis d'un côté où je m'en voulais à moi, parce que j'ai ce schéma-là où je m'en veux, où j'ai eu des parents bah, toxiques, et puis des parents qui n'avaient pas, en fait, par ma mère qui n'a jamais cru à mes douleurs physiques. Je me suis pété plusieurs fois le croisé. Moi, je suis danseuse, donc j'ai eu 3 opérations au genou. Et c'était tout le temps, non mais relève-toi, non mais t'as rien, non mais c'est pas grave. Et j'avais vraiment les croisés cassés, tu vois. Donc j'ai vécu ce milieu hospitalier qui est très protocolaire. Et dans la naissance, c'est aussi protocolaire. On n'écoute pas le besoin de la femme. Je crache pas sur le fait qu'on ait besoin de médecin, qu'on ait besoin d'urgentiste. Mais on crée les problèmes aussi, tu vois, surtout pendant la naissance, on crée les problèmes de t'injecter de l'ocytocine, on crée des problèmes de t'injecter des choses, des produits, de pas écouter la femme même dans des choses, dans des moments où c'est important, tu vois, genre en pleine césarienne, où t'as mal, où on te dit non mais c'est normal, où l'anesthésie marche pas, parce que c'est ce qui s'est passé après pour mon second accouchement. Donc voilà, c'était vraiment atroce. Et je pensais que ça allait me couper l'envie.
Ouais.
D'avoir envie de. Mais j'étais comme en mode résilience et j'ai vraiment eu du mal à m'en remettre physiquement. Et même mon conjoint, en fait, s'est dit. Il connaissait pas tout ça et puis il s'est dit. C'est pas possible, en fait. Il y a un problème. C'est pas normal qu'une naissance se passe comme ça. Que des vies soient brisées, que des familles soient brisées, que des enfants soient, tu vois, d'avoir un bébé qui hurle H24, qui a des problèmes à la nuque, à l'omoplate, qu'on démarre dans la maternité, moi, en train de pleurer en disant je veux que ça s'arrête, tu sais, il y a un problème, en ayant de professionnel en professionnel, que tu démarres dans la vie de jeune parent, dans la vie de jeune mère, en ayant des douleurs physiques, émotionnelles, que tout soit brisé, en fait. Donc voilà mon premier accouchement sur les
Waouh.
grandes lignes.
Alors attends, ce mec, il exerce toujours?
Ouais, il exerce toujours et en fait, je vais faire un dépôt de plainte parce que je suis allée voir après des professionnels, tu vois, que ce soit en énergétique, en ostéopathique, en plus physique, ils m'ont dit, mais il faut que tu déposes plainte. C'est pas possible, ça c'est grave ce qui s'est passé parce que y a eu des problèmes physiques dus à l'anesthésie, après il y a eu des problèmes, l'expression abdominale qui t'a complètement ravagé les organes, qui t'a ravagé. Voilà, sur tous les plans, physique, moral. Et j'appelle l'hôpital, ils m'ont dit, écoutez, madame, on a des milliers de plaintes par mois, on a des milliers de plaintes et rien n'aboutit, et l'hôpital gagnera toujours. Non, mais, tu sais, c'est des expressions abdominales, et après on en parlera, mais des expressions abdominales qui est interdit maintenant, des brèches, parce que pour ma deuxième, j'ai eu une brèche et un blood patch, qu'on parlera. Non, mais j'ai été massacrée. Tout ça, on en a tous les jours, madame, ça arrive tout le temps. Et bien sûr, l'hôpital gagne et les chirurgiens gagnent. Vous n'avez pas de poids sur eux de toute façon. Donc, vous fassiez un dépôt de plainte ou tout ça. Et j'en parle autour de moi maintenant, parce que j'ai beaucoup d'amis dans le milieu. Elles me disent, ben, ça peut remonter dans certaines structures, dans certains milieux où tu as des femmes qui agissent et qui sont là pour les naissances. Ça dépend du service. Mais sur le plan de vue des naissances dans un milieu hospitalier, il n'y a aucun contrôle que tu puisses avoir concrètement, mis à part la femme qui va être là, qui va être présente. Ou... C'est vraiment très compliqué quoi, de se battre continuellement avec l'équipe médicale. Et... Donc j'ai été là, ok. Et c'est là où je me suis rapprochée progressivement de la naissance physiologique, de la naissance. Voilà, le pouvoir des femmes, de tout ce qui... des pouvoirs des familles, de tout ce qui est possible. De... Et en fait, malheureusement, je suis tombée sur les histoires de problématiques en France, d'accoucher à la maison, des problématiques après des femmes, tu sais, qui ont des problèmes avec la justice parce que. Donc moi, ça m'a terrorisée, tu vois. J'ai dit, waouh, c'est malade qu'on en puisse arriver là, c'est pas possible. Il y a l'instruction en famille qui commence à être, tu vois, dérangée. Une naissance à la maison, c'est pas possible. Il y a le manque de sages-femmes, surtout, qui puissent faire ça, tu vois, à la maison. Il n'y a pas de milieu, franchement, qui soit différent de l'hôpital. Et là, j'étais comme, OK, qu'est-ce qui est possible de faire?
Donc, tu vis ce truc, donc absolument abominable, et puis on te dit, allez, vas-y, ça va, c'est bon, c'est normal. Peu importe. Tu te dis quand même que vous voulez un deuxième enfant.
Non.
Ah! Ok.
Les enfants, c'était... Non, je dis juste... Mais rien, en fait. Je
Ok.
dis juste, voilà, let's go, la vie. Moi, je suis contre la contraception. Donc, on
D'accord.
fait comme... Voilà, moi, j'ai arrêté, je l'ai prise, je pense, même pas un an dans ma vie quand j'étais très jeune. Et après, voilà, sur tous les effets indésirables, tous les constats... Moi, ça ne me correspondait pas. Et puis, je suis tombée dans la santé vraiment naturelle, dans tout ce qui est le naturel, dans toute ma vie, l'alimentation, les produits, tout ça. Et voilà. Mais voilà, on fait attention. Je me suis rapprochée de la symptothermie.
Oui, tu remettais pas que ça dans les mains d'une entité supérieure de te protéger de la naissance, quoi. Tu faisais quand même des trucs, même si
Non,
tu
non,
mettais des
non.
hormones dégueulasses dans ton corps, quoi.
Voilà, c'est ça. Mais c'est surtout que mon conjoint, il n'en voulait pas du tout. Puis quand j'ai repris ma carrière de gode danseuse, tout ça, je suis retombée enceinte. L'enfant était mieux accueilli dans le sens où on s'est mieux fait à l'idée d'eux. Mais là,
D'accord.
j'ai dit, oh, non. Là, on va faire les choses bien. On va essayer de faire en sorte que ça fonctionne, qu'il me laisse pas le choix. Mais en France, je dis en France hein, parce que j'étais en France, césarienne un jour, césarienne toujours. Et ça, on me l'a pas, voilà, parce que du coup, tu appelles les sages-femmes, j'étais aux alentours de Bordeaux, ils veulent pas te prendre parce que c'est des risques, parce que, tu sais, sages-femmes libérales, voilà, voilà. Je me suis dit, putain, on est catégorisé, on te laisse pas la chance, j'ai vécu des traumatismes, et forcément, si j'y retourne, forcément, je suis désolée, hein. C'est ce qui va se passer et ça va se passer. Mais j'étais dans l'optique que ça va se passer. Donc, tu vois, déjà, je n'étais pas dans une belle optique. Mais je me suis dit, on va faire un plan de naissance. On va essayer de briefer le conjoint. Tu vois, on va essayer de faire en sorte que ça aille. Pour la petite histoire, à Bordeaux, j'étais à Pellegrin. Voilà, c'était des naissances. C'est une clinique privée, voilà, des naissances à la chaîne un petit peu, avec voilà, des césariennes. Mais j'avais. Non, j'ai pas voulu reprendre le même obstétricien, hein, le suivi gynécologique que j'avais. Et je suis tombée sur une obstétricienne qui venait de Bagatelle. À Bordeaux, c'est un hôpital où ils font des naissances plus naturelles, physiologiques, tout ça. Puis elle accompagne ces naissances-là. Je me suis dit, waouh, tu sais, j'ai parlé avec elle, je trouvais qu'elle avait vraiment une belle façon de penser à la naissance, aux femmes et tout, vraiment une femme incroyable. Mais t'es quand même un peu bloquée par ça, parce que par l'hôpital, les structures, parce qu'elle peut pas avoir le plein droit, elle a aussi les suivis à avoir, et puis tu sais, quand elles font les suivis et qu'elles doivent avoir un accouchement en cours, ben elles quittent les suivis, ou alors elles sont de garde, mais tu vois, c'est souvent la sage-femme qui prévient, et c'est l'obstétricien qui vient accoucher la femme, hein, entre guillemets. Donc, elle avait un beau parler, elle avait toute une belle. On avait des beaux échanges, elle me rassurait, elle me demandait ce que je voulais, ce que je voulais pas. Genre, vraiment, j'avais renoué avec ça, tu vois. J'étais comme, ok, tu vois, j'ai confiance, je suis apaisée, c'est une femme, c'est con, putain. Peut-être qu'elle comprendra mieux ce que je vis, ce que j'ai vécu. Elle était outrée de toute mon histoire, tu vois, parce que je lui ai tout
Ah ouais.
raconté.
OK.
Je lui ai tout raconté, et puis j'ai fait attention au toucher de mon ventre, au machin, à tout ce qu'il y avait, si je voulais ça aussi pour me rassurer aussi. Bref, elle était vraiment incroyable, et cette femme, on a beaucoup parlé parce qu'elle avait de belles histoires de naissance dites naturelles, physiologiques. Mais malheureusement, c'est pas le pilier de tout le suivi de tout l'hôpital, de tout le service, en fait. Comme je disais, il l'appelle au dernier moment, en fait. Et les sages-femmes qui sont là la majeure partie du temps, tu les rencontres pas.
Ouais.
Elles font pas partie de ton histoire. Elles font pas partie de ta vie. Elles connaissent rien. Elles savent pas. Elles te connaissent pas. Donc j'ai dit, je fais un plan de naissance. J'ai été voir la RH de service pour expliquer ce qui s'était passé, pour expliquer l'oncle des sages-femmes en fait, pour expliquer mon premier accouchement, comment ça s'était déroulé, ce que je voulais, ce que je ne voulais pas, mon plan de naissance, tout. Il y avait dans le dossier tout ça. Mais ce que je ne savais pas, c'est que ça ne sert à rien. Que de toute façon, un plan de naissance, dans la majeure partie des cas, ils s'en foutent. Que tout ce que j'ai fait en amont, voilà. Parce que mon histoire va être catastrophique encore une fois. Mon conjoint est préparé, bref. Et en fait, moi, j'étais un peu pas de famille à Bordeaux, rien du tout. Puis tu sais, il y avait ce côté-là qui me disait, ma fille n'a jamais été gardée, ma première, n'a jamais été laissée. Pas de garde, quelle qu'elle soit, tu vois, familiale, amicale ou. Qu'on appelle ça.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June.
Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Garderie ou quoi. Déjà, l'idée de devoir laisser mon enfant, c'est une angoisse. Comment tu veux que la mère, elle enfante si derrière, t'as des préoccupations, tu vois? Je dis, à qui je vais laisser ma fille? Et je dis, mais comment ça se fait qu'en France ou qu'ailleurs, on puisse pas avoir son enfant près de soi, qu'on puisse pas l'amener, ou mais quand bien même elle soit dans une salle familiale, un truc, tu vois, il y a des choses qui devraient être normales. Surtout, je l'allaitais encore. J'ai dit, putain, j'allaite mon enfant. Elle n'a jamais été laissée. Comment vous voulez que... Et puis, ouais, mais couper le cordon, couper machin. Ça, c'était l'ARH de l'hôpital.
Tu n'as pas demandé l'heure, toi?
Oui. Déjà, tu vois, je trouve ça complètement impressionnant. Donc, tu mets des peurs dans le ventre de la mère, dans les choses de... Donc, bref. Ce qu'il en était, c'est que le travail a débuté à minuit.
OK. Alors, attends.
Waouh, ma fille, elle dort. Je vais devoir la laisser.
Ah ouais, pardon. Parce que donc là, on te programme une césarienne? Comment ça se passe, là?
Ah oui, pardon. Elle me dit, on va essayer.
Ah, sympa, déjà.
Ouais, sympa. Elle me dit, on va essayer. Moi, j'ai confiance. On va essayer. Et je me dis, waouh, je suis lâchée, là, dans tout ça, dans l'univers. On va essayer, OK? Mais moi, je suis comme... On va essayer, OK. Mais ça veut dire quoi, tu vois? Genre, j'ai pas de doula, j'ai rien. Je suis pas franchement informée. Je suis comme, OK, on va essayer. Ben, je veux pas de césarienne, c'est mort. Mais j'étais bloquée, tu vois? Genre, bloquée dans tous les sens du terme, tu vois? Genre, c'est mort. Je passerai pas par ça. J'aurai pas ça. Et elle me dit, bah, écoute, on va tout faire pour que tu réussisses. Déjà, c'est beau, tu vois? Donc, c'est pour ça que j'ai fait le plan de naissance. Par contre, je m'étais renseignée, c'est je ne veux pas de cytocine, je ne veux pas d'ajout chimique, je veux rien. Je veux qu'on me laisse, je veux qu'on m'accompagne, qu'on me supporte, que même si je dise non, tu vois, même si, parce que dans cet état-là où tu es dans le cercle de la naissance, tu n'étais plus toi-même, entre guillemets, il y a les choses qui sont posées, vous allez m'aider à accompagner dans ça sans que même si je hurle à la mort et que je dis je veux ça, vous me dites non, c'est marqué, tu ne le veux pas et tout était OK, les bases étaient posées, j'étais allée voir la RH, il y avait dans mon dossier, il y avait le plan de naissance. Voilà, donc elle m'a dit, on va essayer, t'en es capable. Vraiment, l'obstétricienne était vraiment au top. Okay. Mais comme je t'ai dit, elle n'est pas là, quoi.
Mais non. Et donc...
Elle vient au moment où la tête est censée, tu vois.
Ouais, c'est ça. Mais t'as pas du tout le soutien pendant pendant le travail, quoi, de sa part. Mm. Ok, donc arrive à un moment donné, minuit, tu perds les os. C'est là que tu me...
Oh, cache.
Ok.
Moi, c'est la fontaine, toi, ça.
Ok.
Après, t'es là, je fais « Waouh !» Mon mec, il venait de se coucher, il passe derrière la porte, la tête, il fait « Ah non, t'es pas sérieuse. » J'étais dans le bain et « Pshhh !» C'est ça. Ça a coulé les débats après. Et moi, il faut savoir, hein, d'ailleurs, pour tous mes enfantements, mes grossesses, mais tout ça, j'ai des ventres énormes. Je suis petite, hein, mais j'ai des ventres, genre tout le monde pense que j'ai des jumeaux. J'ai pas beaucoup de liquide amniotique. Tous les corps médicaux, ou même ceux que je crois, sont étonnés. Genre, je vraiment, mais... Je suis énorme, quoi. J'ai un ventre, okay. Genre, je porte comme si des jumeaux, quoi. Et puis, les estimations de mes bébés, ils sont... C'est 4,5 kg minimum, hein.
Ouais, OK.
Même ça fait toujours peur à tout le corps médical, hein. Et puis, voilà, tu sais que maintenant, après, j'ai eu 2 enfantements naturels et à la maison, et j'ai pu sortir des bébés de presque 5 kilos, alors qu'on me disait césarienne, voilà. Et puis, moi, j'ai retenu que, de toute façon, une femme qui conçoit un bébé, qui a bébé qu'elle a, enfantera et sortira le bébé qu'elle a, parce qu'une femme ne peut pas... Voilà, produire, entre guillemets, porter un bébé qu'elle ne pourra pas sortir. Voilà, ouais, avec les grands termes. Et donc, je perds les os. Puis, tu sais, je commence un peu à saigner. Puis, tu sais, je commence le travail. Là, je me rends compte qu'avec les 2 accouchements que j'ai eu en premier, que de perdre les os d'un coup, le fait que ça appuie sur le col, ça fait mal. Hein. Ouah, je hurle, je suis là, ouh, c'est douloureux de perdre les os comme ça. Parce que moi, c'est même pas une fissure, c'est perte totale. Donc, ben, j'appelle une amie de Bordeaux qui vient mais qui n'a pas gardé ma fille. Ma fille l'a vue genre deux, trois fois, mais elle vient pendant la nuit. Ma fille allaitée, ma fille qui se réveille, ma fille qui a besoin d'être portée H24, qui a un fort besoin d'attention, qui a un bébé vraiment avec beaucoup de besoins. Enfin, je pars déjà à l'idée de laisser ma fille là, je suis pas bien, quoi. J'ai même dit à mon conjoint, écoute, je m'en fous, je vais accoucher toute seule. Je vais enfanter toute seule, toi tu restes avec elle, tu vois. Genre vraiment, j'avais beaucoup d'angoisse. Je laisse quand même ma fille, on part. C'est pas bien, hein, mais j'ai pas pu m'attacher. J'étais à quatre pattes dans la voiture jusqu'à aller à l'hôpital. J'étais en souffrance totale, souffle, souffle. J'étais en train d'insulter mon conjoint. Quoi, souffle? Je peux pas souffler! Souffle à ma place. Et tu sais, quand je réfléchis, je fais comment on peut faire bouger une femme?
Et bien sûr, mais c'est le
Comment?
truc aberrant.
Comment? Mais c'est
La
fou.
voiture.
Mais oui, la voiture en plus, mais comment tu peux emmener une femme d'un point A, d'un point B et de dire, ouais, dès que ça commence le travail, vous partez?
Mais non, mais c'est qu'ils ont. Les gens n'ont pas conscience de quoi on parle. Enfin, tu vois, c'est. Alors que ça arrive des milliers de fois par jour, mais non, pour eux, c'est normal. Et les gars. Enfin, bon, bref.
Et on pense en plus, on fait penser aux femmes. Je te dis, toute la naissance, on leur a pensé que ça se passe comme ça, que c'est normal et comme c'est comme ça que ça doit être. Donc forcément, on n'a pas la conscience que ça peut se passer autrement, en fait. On est conditionné comme si. Bref, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est fou. Donc moi, je suis là, mais comment je vais arriver là-bas? Comment je vais monter dans le service déjà? Tu vois, on arrive en van, mon conjoint, et je mets 1 000 ans à traverser la route. Je suis pliée en deux, je suis là, mais ils sont sérieux, asseyez-vous sur une chaise roulante, tu sais, dès qu'on arrive à l'entrée. Mais je peux pas m'asseoir sur une chaise roulante. Puis, putain, mais arrêtez de me dire ce que je dois faire, tu vois.
Ouais, en
Genre,
plus.
tourne ton corps. Tu sais, c'est comme on en vient au moment où la femme enfante, poussez, madame. Mais toi, tu sais quand je dois pousser ou quoi, bordel? C'est laisse-moi, en fait. C'est ça où je trouve ça
Est à
fou. Donc, tout ce
l'intérieur?
qu'on.
Non, t'y es pas, alors.
Donc moi, je galère à monter dans le service. Mon conjoint, il est un peu. Parce que là, le travail se ferait vraiment en route par rapport à la première fois, tu vois.
Ouais,
Je
ben
connais
oui.
le vrai travail, si tu veux.
Ouais.
Tu vois, je connais le vrai travail, l'intensité du travail, qui fait que j'ai perdu la totalité des os, de mon os, là. J'ai l'anxiété de laisser mon enfant. J'ai l'anxiété que ça se passe comme ça s'est passé, de revivre ces traumas-là.
Sure.
J'ai tout qui se bouscule, tu vois, le trauma aussi, je pense que. Trauma sexuel que j'ai vécu, de mon vagin qui se resserre, qui veut pas s'ouvrir, le périnée qui est complètement hypertonique, bien du fait que je sois danseuse, mais je pense du fait que voilà, j'ai eu des traumas émotionnels et surtout des parents, de mes parents, hein, de ma mère qui me dit mais c'est dangereux, mieux vaut que tu fasses une césarienne, tu peux mourir, enfanter toute seule ou naturellement ou sans le corps médical, c'est n'importe quoi, c'est dangereux donc.
Bien
Il y
sûr.
a ça aussi de la part de mes parents, tu vois. Donc déjà, il y a tout ça qui se bouscule dans ma tête et je peux pas être sereine, je peux pas être là en train de souffler, en train d'accueillir, tu vois, ces contractions, d'accueillir tout ça. Bref, j'ai énormément de traumas et donc j'y vais, je monte, on va dans la salle et puis le service était vide, Roxane, il était vide, vide. Et toutes les sages-femmes, il y en avait un nombre, mais incalculable, étaient derrière la porte vitrée. Il y en a une qui m'accueille, qui prend mon projet, mon dossier, et j'ai mon projet de naissance. Et je ne sais pas pourquoi. Je savais qu'elle n'en avait rien à faire, mais rien à faire. Déjà, j'avais demandé la salle naissance, tu vois, je m'étais préparée. J'ai dit, je vais à la salle naissance, je vais être dans mon bain. Et là, elle me dit, ah, mais vous avez perdu les os, c'est mort. Parce que c'est hygiénique, hygiéniquement parlant, là. Je sais pas ce qu'ils disent là, que c'est pas possible, que ça
Pour
peut
les
être un signe
ouais.
d'infection.
Ouais.
Ouais. Donc vous n'aurez pas la salle naissance. Donc déjà là, dans mon corps, ça déchante. Je fais waouh. Non, mais je sais pas, il y a tout qui s'alignait pas. Ils me mettent dans une chambre. Déjà, monitoring. Le truc qui me serrait le ventre. Je te dis, j'ai un ventre de jumeau. Hein. Il me serrait le ventre. J'avais mal, elle m'était sur un côté, sur l'autre, moi ça continuait de couler, elle m'a fait le contrôle, je dis non, je veux pas, non, je veux pas, ça me fait mal. Elle rentrait les doigts quand même pour vérifier à combien
Ah.
j'étais.
Les
Horrible.
détestent.
Non, mais horrible, horrible. Et puis tu sais, s'il n'y a pas de consentement, tu leur dis non, ils font quand même, c'est.
C'est intolérable, en fait. C'est intolérable. Ça s'appelle un viol. Pardon. Et pardon pour les gens qui nous écoutent, mais je suis désolée, ce n'est pas acceptable. Ces gens devraient aller, enfin, je ne sais pas si ces gens devraient aller en prison, mais, ou en tout cas s'expliquer devant un tribunal. Enfin.
Surtout s'il y a le consentement de la mère et de la femme qui dit non, ou du conjoint.
Mais c'est ça en fait. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Donc, enfin, c'est répréhensible par la loi en fait, ce qu'on te fait. Bon,
Ah, mais
ouais.
c'est sûr, mais quand bien même ils sont protocolaires, ils te disent c'est ce qu'on doit faire, c'est les choses qu'on doit suivre et puis on doit contrôler en fait.
Oui, mais ton
C'est tout.
consentement, il passe avant tout ça. Et tout ça, c'est de la manipulation, hein. C'est pour te faire aller là où ils veulent que tu ailles. Oui, c'est les protocoles, votre bébé il est en danger, vous allez mourir, tout le monde va mourir. Tout ça, ce sont des techniques de manipulation, mais c'est fin.
Non, non,
Alors,
je sais, je vois.
je fais une petite parenthèse parce que là, du coup, il y a beaucoup d'émotions, donc ça sort de cette manière-là. Puis moi, j'ai pas envie de freiner mes émotions quand ça sort comme ça, mais on fait une parenthèse. Non, tous les médecins, tous les soignants ne sont pas comme ça. Il y en a des super. Nous, ce qu'on pointe du doigt, c'est un système qui est problématique. Et c'est pas parce qu'on dénonce quelque chose qui s'est mal passé une fois qu'on est en train de dire qu'il faut brûler tous les soignants. C'est pas la question. Les soignants qui nous écoutent, si vous êtes des gens bien, vous n'allez pas vous sentir concernés par ce qu'on est en train de raconter. Si vous êtes dérangé par ce qu'on raconte, c'est que peut-être vous devriez remettre en question votre pratique. La parenthèse,
Non,
elle
mais
revient.
moi je suis tout à fait d'accord, hein. Comme je disais au tout début, c'est qu'on a besoin d'urgentistes, de médecins, de soignants, qu'il y a certains dans les services qui sont voilà, mais c'est tout ce qu'il y a autour en fait. C'est puis elles peuvent pas exercer non plus leur métier comme elles le devraient, et puis il y a tout un système à revoir. Donc voilà, comme tu disais, la grande parenthèse est tout à fait voilà, elle est tout à fait correcte. Et puis voilà, comme tu dis, s'il y en a qui ont du mal à entendre ça, c'est qu'il y a un problème quelque part, pas forcément d'elle, mais du système dans lequel elle exerce aussi.
Donc, on te fait en gros plein de vérifications qui ne sont pas nécessaires.
Et je demande à aller à la douche. Il n'y avait pas d'eau chaude.
Ah putain.
Que de l'eau froide. J'ai dit, vous déconnez quoi dans tout le service? J'ai dit, non mais là, c'est genre, tu sais, il y a un truc là. Genre, il n'y a pas d'eau chaude. Non mais t'es rock, il n'y a pas d'eau chaude.
Mais attends, mais ça n'existe même pas. On est en
Non
France,
mais.
il n'y a pas d'eau chaude.
J'étais comme en train de souffrir sur les toilettes, j'étais en train de pleurer. J'ai dit, putain, Tony, mon mec, j'ai dit, s'il te plaît, aide-moi, j'en ai marre, j'ai mal. Et j'étais ouverte à 4, je crois. Et là, j'étais déchantée parce qu'en fait, il n'y avait personne dans le service. Elles étaient seules derrière leur vitre là. Personne ne venait nous voir. Personne ne venait nous soutenir, nous accompagner. Personne venait. Juste, on rentrait dans la chambre, on faisait les examens, on repartait, qui me faisait mal. Et en fait, à un moment donné, en traverse avec mon conjoint, j'étais nue dans le service. T'sais, je m'en foutais, j'étais complètement. Mais tu sais, j'étais pas là là, quoi. J'étais nue au milieu du couloir, je traversais devant les sages-femmes, personne n'est venu, mon conjoint était comme, oh putain, mais qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu, il me promenait comme ça, je m'arrêtais à quatre pattes, je me relevais et tout ça, il dit, non, non, tu sais, lui, il n'est pas du tout préparé, il était comme, oh là là, mon Dieu, personne venait l'aider, il était comme jeté dans la maternité, mais dans toute cette naissance-là, et il m'accompagne, il me met sur les toilettes, et là, avant le grand moment, tu sais, quand tu te vides, je me suis vidée, mais Roxane, je me suis vidée, mon conjoint, il sortait la tête pour vomir, limite, je me suis
Oh là
vidée, j'en pouvais plus, devant, derrière,
là.
j'étais pas
Ah.
bien, j'étais, mon Dieu, la
Classique.
totale,
Classique.
voilà, la
C'est ton
totale, j'étais
corps.
comme, voilà, mais je tremblais, tu vois, je tremblais, j'en pouvais plus, et j'arrivais plus à rester sur les toilettes, et personne venait. Personne venait parce que j'aurais pu tomber, j'aurais pu, tu vois, j'étais pas bien, mon conjoint était en train d'essayer de me tenir. Elles nous ont vu passer. Elle s'est
Ouais.
pas dit, elle sort de sa chambre, l'autre, il y a un problème, elle va. Je sais même pas pourquoi je suis sortie de la chambre parce qu'il y avait des toilettes dans ma chambre. Je suis sortie de la chambre dans les toilettes publiques du couloir, peut-être
Let's
pour activer le travail. J'en sais rien. Bref, donc je fais tout ça, je retourne dans la chambre et là je dis à mon mec, vas-y, il n'y a personne qui m'aide, j'ai pas d'eau chaude, j'ai rien, j'ai pas de soutien. Parce que lui, c'est mon soutien, mais tu sais, il est lâché dans tout ça. Et puis là, il comprend rien. Puis tu sais, il est là, il me dit, ça va, puis limite, je l'insulte, le pauvre, parce que tu sais, t'es pas dans ton état normal. Il est là, ben, t'as certaines femmes, quand elles enfantent, ben, tu sais, elles rejettent tout sur quelqu'un ou tu sais, elles essayent de tu sais, elles ont, enfin moi je suis une lionne quoi.
Bien sûr.
Et là je dis ça va pas Tony, ça va pas, je me sens pas bien, j'y arrive plus. La sage-femme elle vient, ça va pas, non. Puis là elle sort une phrase, Roxane. Oh putain, avec toute mon expérience maintenant et ce que j'ai vécu, elle me dit vous voulez toujours pas la péridurale, madame?
Connasse.
Là, je
Mais
dis, putain, il y a marqué quoi dans mon putain de projet de naissance? Il y a marqué quoi? Juste, viens m'aider, viens me soulager, fais des points. Tu sais, je sais pas, fais quelque chose. J'avais le droit à rien, j'avais pas le droit à toute naissance, j'avais le droit à rien. En même temps, elle venait pas, puis elle venait me contrôler, machiner, vous levez pas, faites pas ci. J'étais comme, mais bref. Et puis à un moment donné, découragée, genre, je sais pas, quelques heures après, j'ai dit, vas-y, Tony, appelle-les, j'ai une péridurale. Mais je pleurais, pas de douleur, je pleurais parce que j'ai flanché. Et je savais qu'en prenant la péridurale, ça allait être mort. Parce qu'il n'y a pas la péridurale.
C'est
Pardon?
pas toi qui as flanché, c'est pas toi. C'est juste que t'avais besoin d'aide et personne ne t'a aidé. Ton mec, il savait pas comment t'aider parce qu'on a besoin d'un soutien qui est bien plus important que dans n'importe quel moment de notre vie. Donc ton mec, il a pas su faire et t'avais personne. C'est pas toi qui as flanché. C'est juste, t'as pas eu ce dont t'avais besoin, quoi.
Je me suis encore voulu, tu vois, et je m'en veux encore un petit peu maintenant de pas avoir tenu, tu vois. J'ai été forte dans des moments de ma vie, mais là, je savais que ça allait être mort, tu vois. Je savais que, tu vois, là, je t'en parle. Je sais pas si je vais finir par pleurer, mais souvent, ces naissances, quand j'en parle, les deux prochaines naissances que je vais raconter m'ont guéri d'une certaine façon. Mais tu vois, j'ai les larmes aux yeux qui montent parce que ce que j'ai vécu, c'était atroce et on en parle dans les grandes lignes. Mais chaque geste, chaque parole, chaque truc de quand il y a eu la conception, de tout le suivi de grossesse à l'enfantement, ça a été de la violence en fait. Et je me dis, mais comment c'est possible de pouvoir soutenir une femme, de pouvoir. Et quand bien même, je parle pas à tous les professionnels de santé, je les vise pas tous, mais comment tu peux faire ce métier-là? Comment tu peux vouloir faire ça si t'es pas dans un soutien, si t'es pas dans une compassion, dans une empathie, dans une écoute de la femme, je comprends pas. Moi, ça me dépasse et je me dis.
C'est le système qui les casse. Soit au début, ils sont pleins de bonnes intentions et puis ils se rendent compte qu'en fait, c'est pas comme ça que ça marche dans le quotidien parce qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de moyens même humains. Tu vas faire des horaires de chien et tu vas assister à des choses horribles et à de la maltraitance. Et tu peux à un moment donné te dire, bon, bah, ok, peut-être que c'est comme ça qu'il faut faire. Et je pense que tu peux avoir beaucoup de bonne volonté à la base, mais le système, il te bute. Ils te butent. Et oui, c'est nous qui sommes au bout de la chaîne et qui devons subir mais des horreurs. Et ils se rendent plus
Mais
compte. Après, ils prennent plus le recul de se dire, ah oui, c'est vrai, peut-être que c'est pas normal qu'on fasse ça. Ils le prennent plus, ce
ben non,
recul.
parce qu'ils sont et ben non, oui, parce qu'ils vivent ça au quotidien, qui c'est devenu une normalité. Ben, pour la
Ouais.
petite histoire, ma mère, elle est infirmière de nuit, donc moi j'ai vécu mère infirmière de nuit. J'ai des amis dans ce système-là, puis moi je suis danseuse professionnelle, mais à côté je fais ASH dans les structures hospitalières et je fais le boulot d'une aide-soignante aussi à la base. Donc je sais ce que c'est, et tu fais plus de l'humain. Et dans les milieux des naissances, malheureusement aussi, quand le service est plein, il faut que ça dégaine, il faut que les femmes, elles accouchent.
Ah
Parce que le premier chirurgien, le premier obstétricien, tu vois, je mets même chirurgien, le premier obstétricien, il dit, ouais, mais j'en ai d'autres, donc les chambres, il faut qu'elles soient libérées. La meuf, elle peut pas se lever, elle a une césarienne, il faut que la chambre soit libérée. Donc j'ai conscience de tout ça, et je sais que bah, malheureusement, c'est ce qu'on leur a appris, que les naissances, c'est dangereux, les naissances, c'est machin, donc... Voilà, comme on dit, bah, on rentre dans un truc qu'ils ont appris et que c'est devenu une norme en fait. Et donc là, je suis vraiment en colère parce que la seule chose qu'elle me propose, malgré mon plan de naissance, que je suis allée voir la RH, qu'elles savent qui est mon obstétricienne, c'est avec ce petit sourire. Alors, elle veut toujours pas la péridurale? Donc, je pleure et je dis à mon mec, vas-y, let's go, vas-y, demande-lui là, sa putain de péridurale. Excusez-moi de parler comme ça, mais j'ai tellement de haine, tellement de violence à ce moment-là que j'ai vécu. Et je dis, bah, vas-y, vas-y. Et là, je me dis, je sais pas, dans ma tête, je suis comme encore, mais si, ça va être possible, la péridurale où tu peux bouger, où tu peux te mettre en mouvement, parce que dans les pays nordiques, j'avais vu ça, où il y a encore une moitié de sauver les meubles encore. Et là, attends, parce que moi je suis tatouée de partout, hein. Donc tu la vois venir ou pas?
Ouais, putain.
Non, avec le comment il s'appelle, l'anesthésiste qui arrive. Donc moi j'ai un ventre énorme, on fait dos rond, fait machin. Et moi je vois tout, tu vois, les aiguilles, le machin. Et puis il me dit, mon mec il se décompose, tout tatoué de partout aussi. Puis le mec, l'anesthésiste qui me dit, non mais Safa là, vous allez pas avoir mal et avoir peur, vous êtes tout tatoué de partout, vous allez pas me faire une scène?
Vous allez pas me faire une scène.
Putain, et là encore, stigmatisation, stigmatisation. Puis je suis comme, mais il se fout de ma gueule, c'est pas parce que je suis tatouée de partout que forcément je vais pas avoir peur, que forcément je suis là bien à recevoir. Puis je suis comme, donc déjà, il me prend la tête, donc il me pique. Ça va être trop long que je te raconte, mais si tu veux, j'ai eu 4 péridurales.
Il s'est repris à 4 fois pour piquer.
Et puis après, il est revenu dans le service parce que ça. Ah oui, d'ailleurs, tu vois, ça me remonte. Ils m'ont dit, par contre, dépêchez-vous pour accepter la péridurale parce qu'à 9 h du matin, l'anesthésiste, il passe
Oui,
dans un autre service.
classique ça.
Pour que. Ah oui.
Dépêchez-vous, après il n'est plus dispo. Oui, d'accord.
Donc moi, je suis là, ok. Donc voilà. Donc il est venu. Ça s'est super mal passé parce que, genre, je bougeais. Genre, j'avais une contraction, excusez-moi. Excusez-moi de bouger. De pas faire un dos rond comme vous le voulez parce que ben, j'ai un ventre énorme et qu'un dos rond, en plus c'est un mec, je dis, il va essayer de faire un dos rond. Je n'ai pas envie de l'insulter, mais bon, va faire
Non.
un dos rond pendant que tu as une contraction, pendant que tu as un ventre énorme, le dos rond ça n'existe pas. Hein. Bref, donc il pique, il me fait mal. Je te passe les histoires, hein. Je ne peux pas me mouvoir, je suis interdit de me mouvoir, donc il me laisse allongé pendant 18 heures. 18 heures allongées. Ok? Moi, j'essaye avec ce que j'ai appris de mettre ce que j'ai appris toute seule, de mettre une jambe comme ça. Je me change de côté pour que, tu sais, d'essayer d'activer le travail, de lever la jambe. Avec mon conjoint, on est épuisé. Ma fille, je stresse, j'envoie des messages. Je suis dans le travail, mais je suis là. Est-ce qu'elle va bien? Est-ce qu'elle a pas peur? Est-ce qu'elle a besoin de téter? Et je vois que le travail s'allonge. Je me dis, putain, je suis partie à minuit. Tu vois, j'ai enfanté. Il était 17 heures, quoi. Et là, on me laisse allonger. Et en fait, la péridurale ne marche pas. Je sens. Et on me dit, ce n'est impossible que vous sentiez parce que la péridurale est posée.
Mais
Et là,
putain.
je dis, mais je vous dis que je sens et que j'ai mal. Et encore, c'est pire que tout. Vous me laissez allonger. Elle me contrôle. J'ai interdit de me lever, interdit de machin. En plus de ça, j'ai des réflexions H24. J'ai des gens qui passent dans ma chambre tout le temps. J'ai la puère, je crois que c'est une puère, hein, qui passe dans ma chambre, qui met des couches, des liniments. Je dis, excusez-moi, j'ai les miennes. Ah, mais parce que c'est des produits naturels et pas chimiques comme chez nous. Je me rappelle de sa phrase. Je suis comme, mais en fait, mais. Voilà, tu vois, j'ai dit, mais je suis en plein travail, je souffre. Bref, les lumières. Bref, tu connais les histoires, hein, qu'on entend tout le temps, la même chose. Et je suis comme, mais en fait, c'est mort. Et à un moment donné, elle me contrôle sans cesse. J'ai mal, je leur dis non, machin. Vous êtes à 8, madame, mais le travail avance plus. Donc, on va appeler l'obstétricienne qui est en rendez-vous. J'avais marqué, je leur ai dit ce que je ne voulais pas, sans me l'annoncer, Roxane. Ils me jettent de l'ocytocine. Ils me mettent sans me le dire. Et en même pas un quart d'heure après, ils me disent césarienne d'urgence. Parce que je pense que le cœur du bébé a décéléré, parce qu'ocytocine, parce que voilà, et puis maintenant que le recul et tout ce que j'ai, je me dis, mais c'est l'escalade, la cascade d'intervention, la cascade de choses, je suis comme, tu vois, là je te parle, je tremble, je souris, mais c'est nerveux en fait, je suis comme, je me rappelle de chaque instant, je me dis, mais comment c'est pu arriver, comment c'est. Et puis j'avais mon projet de naissance, mais ils s'en foutent de ce qui est marqué. Et même encore quand on parle à l'heure actuelle, si t'as pas de doula qui est là derrière et qui te dit fuck off, la mère veut pas ça, le parent veut pas ça, les familles ont dit nanana, et la doula elle se fait jeter aussi de toutes les façons.
De toute façon.
Mais de toute façon, quand bien même t'es ça, ils s'en foutent. J'ai eu beau parler avec l'équipe médicale avant, j'ai eu beau parler avec mon obstétricienne. Bref, il l'appelle, il me jette, parce qu'en fait, elle, pour elle, c'était un peu le dernier recours, tu vois. Elle passe me voir, elle dit, écoute Patricia, ça va aller, parce qu'elle passe me voir vers la fin, j'ai confiance. Et puis là, je tremblais, j'ai dit, je hurlais, hein. Non mais j'étais une folle. Hein. Quand il m'annonce césarienne, je tremblais, j'étais sur le lit et je tremblais de tout mon être. Là, je sautais du lit comme ça, je tremblais, je dis, non, vous ne m'amenez pas en césarienne, je ne m'amène pas. Et elle me dit, faut la calmer, faut la calmer. Il me tenait et tout ça, mon conjoint, il voyait ça, tu sais, genre un film d'horreur. Je dis, mais il se passe quoi en fait? Je dis, non, c'est mort, je veux pas, j'irai pas en césarienne. Donc ils m'ont mis des calmants, ils m'ont mis des trucs. L'obstétricienne était là, elle était fine, tu vois, elle essayait de me rassurer, de me dire ça va aller, tu vois, elle me caressait, elle était vraiment bienveillante et tout. Elle me dit mais ça va aller, tu vas voir, tu vas quand même enfanter. Elle me dit contrairement au premier là, mais à la salle d'opération, ils savaient un peu mon suivi, mon histoire, donc on va en césarienne, ils m'injectent l'arachie là, anesthésie. Je vomis de tout mon être. Je tremble. Puis là, elle me dit, si vous vous calmez pas, je suis désolée, je vais devoir vous endormir.
Mais tu
Moi,
vois, vomir.
j'ai.
Putain.
Mais en fait, moi, je supporte. Alors, je pense que déjà, le stress, l'angoisse, mais je supporte mal aussi tous ces trucs chimiques-là, tu vois.
Mais c'est bien sûr, mais c'est
J'ai
pas
eu.
de faute, enfin.
Et en plus, c'est pas anodin. Moi, je dis toujours, je sais, il y a des femmes, je comprends qu'elles ont mal, je comprends qu'il y a tout ça. Mais avec le recul que j'ai maintenant, les 2 naissances que j'ai eues à la maison est naturelle, tout ce que j'ai maintenant sur tout ce que j'ai appris sur les produits, la naturopathie, bref, tout ça, je me dis, c'est pas anodin les femmes de prendre une anesthésie, une péridurale, c'est pas anodin. Tous ces gestes-là, pour votre bébé et pour vous, peuvent amener une cascade d'intervention, peuvent amener à des choses atroces. Et c'est du chimique, là, qu'on vous envoie dans votre corps à des doses. Et puis, si vous regardez ce qu'il y a dans les péridurales, là, des choses hautement dangereuses et toxiques, tu vois. Alors oui, ça sauve à des moments, on ramène toujours dans le contexte, hein, quand c'est pas dangereux, quand il n'y a pas des choses qui dépendent de la vie, de la maman ou du bébé, ok. Mais tu vois, j'entends des choses sur TikTok, sur les réseaux, des césariennes de convenance, des trucs, je suis là, waouh! Si vous saviez les problèmes, et puis quand bien même une femme qui dit ça, tout s'est bien passé, la péridurale, tout ça, c'est ok. Non, peut-être que dans quelques mois, dans quelques années, tout ça serait fait un cocktail d'intervention, même pour ton bébé, tu vois.
Bah, ou alors, elle s'est simplement exposée à énormément de risques et elle a eu beaucoup de chance. C'est aussi
Oui,
possible. Elle
aussi.
a eu beaucoup de chance.
Aussi.
Mais le fait est que quand tu prends une péridurale ou une césarienne, tu t'exposes à énormément de risques. Et pourquoi il y a autant de problématiques, autant d'hémorragies du postpartum, autant de bébés qui font des anomalies du rythme cardiaque, autant de trucs qui se passent pas bien? Les gars, c'est quoi le point commun entre tout ça? Peut-être, je sais pas.
On te prévient pas des risques.
Mais non, on n'en parle pas.
Jamais on te dit que...
Après, eux, ils disent il y a des risques dans tout. Enfin, ils disent pas ça. Eux, ils disent il y a des risques. Si tu prends la péridurale, au moins, on est sûr que tu fais pas, qu'on va pas te mettre sous anesthésie générale, tu es en sécurité de X. Mais ils te disent pas les autres risques que tu prends à prendre la péridurale. Et en fait, il y a des risques dans tout. Mais sauf qu'ils parlent des risques qui, eux, les arrangent. Et ils passent au silence ceux qui nous
Oui,
arrangent.
bah oui.
Patricia, il faudrait que je puisse partir max, mais alors max du max dans 30 minutes.
Ok,
Donc,
on
je
va
vais
faire vite.
te laisser parce que c'est hyper intéressant, mais du coup, juste pour que tu aies en tête que là, il faut que tu me cases tout dans 30 minutes et il faut
Ok.
vraiment que je sois partie max, max dans 30 minutes.
Vas-y.
Vous êtes toujours là? Je me suis dit qu'il fallait que j'enregistre une sorte d'outro, de petits messages de fin pour pas que ça finisse de manière aussi abrupte quand même. Surtout quand on est en plein milieu d'un récit comme ici, alors voilà. J'ai pas mon matériel avec moi et vous me connaissez maintenant, vous savez que je suis quelqu'une de brouillon. Donc plutôt que d'attendre de faire ça proprement chez moi plus tard avec mon micro, eh ben je fais ça salement maintenant avec le dictaphone de mon téléphone. Mais c'est fait avec le cœur hein, quand même. Par contre, je me dis vraiment que personne ne va écouter ce message et que je me pose des questions existentielles pour rien. Alors si jamais vous l'écoutez, venez me le dire en message privé sur Insta. Juste au moins que j'ai une petite idée du nombre de personnes qui écoutent jusqu'à la fin. Et puis comme ça, on se fait un truc un peu intime, juste vous et moi. Je trouve ça cool. Genre les meilleurs qui restent jusqu'au bout, tout ça. Bref, je vous sors la suite bien vite. Bisous.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.